Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Nathanaël, bonjour à tous.
Et l'Algérie justement, à la une de la presse française.
Et la situation de l'autre côté de la Méditerranée est scrutée de très près en France. L'Algérie s'affiche donc en une de nombreux journaux nationaux mais aussi régionaux ce matin. L'impasse, titre le Dauphiné libéré, marée humaine contre Bouteflika pour Ouest-France et un adjectif à la une du Midi Libre, historique. Historique par le nombre mais aussi par la forme de ces manifestations qui ont déferlé hier sur le pays. Un joyeux tsunami humain et une mobilisation à visage féminin, souligne Libération dans un article accompagné d'une photo de Jamila Bouyred, figure de l'indépendance algérienne. Sur le cliché, une banderole, on ne libère pas un pays si on ne libère pas la femme. Une journée indescriptible, raconte pour sa part le correspondant de Libération à Alger, Hassen Wali, qui évoque une mixité inédite pour l'espace public algérien. C'est un peu comme si chaque jour, le bateau prenait un peu plus l'eau, or élève de son côté le correspondant du Figaro qui évoque les vagues de défection dans les rangs du FLN mais aussi des fissures dans les milieux d'affaires. Pour le quotidien Le Monde, c'est le signe que l'abandon de l'option de la candidature de Bouteflika commence à être envisagé au sein du régime. Le journal La Montagne, lui, se veut moins optimiste ce matin. Et si ses sourires trouvaient la violence sur leur chemin, si les réflexes de survie du pouvoir se déchaînaient, peut-on lire dans l'édito de ce samedi. Et de poursuivre, Le Monde regarde l'Algérie, c'est l'heure de tous les possibles.
Libération qui livre une enquête à contre-courant ce matin avec un grand dossier sur les relations entre le cimentier français Lafarge et le groupe État islamique.
Oui, Lafarge est soupçonné, je le rappelle, d'avoir versé entre 2011 et 2015 via l'une de ses filiales près de 13 millions d'euros à des factions armées en Syrie, dont le groupe État islamique. L'objectif, c'était de continuer à faire tourner son usine de Jalabiya dans le nord du pays, et ce malgré la guerre et l'intervention de la coalition internationale.
Alors Libération retrace notamment le parcours d'une des plus hautes figures du groupe État islamique, Abu Lokman.
Donné pour mort par les États-Unis il y a un an, il aurait eu un rôle clé dans les affaires de Lafarge en Syrie. Libération qui égratigne l'entreprise, mais aussi la passivité des services de renseignement français. L'enquête s'appuie sur des documents d'enquête, des entretiens avec des sources spécialisées et des travaux universitaires. À lire notamment le procès verbal édifiant d'un policier du renseignement français chargé des relations avec Lafarge. Il reconnaît que la DGSI a agi de manière opportuniste dans le dossier. Libération qui livre un édito au vitriol. Voilà une entreprise qui a fait des affaires en toute connaissance de cause avec un groupe terroriste sous le regard fuyant des services secrets français, peut-on lire. Et d'ajouter, soit l'État français s'est fait berner par Lafarge et cette naïveté ou ce manque de vigilance est grave, soit l'État français a sciemment laissé Lafarge opérer avec l'EI en espérant au passage récupérer des informations clés sur des attentats en préparation et cette stratégie n'a guère payé.
C'est le moins qu'on puisse dire. Souriez, vous êtes filmé.
Oui, surtout si vous êtes un gilet jaune et que vous avez commis des dégradations ou été l'auteur de violences. Le Parisien nous apprend ce matin que la Direction Générale de la Police Nationale a mis en place des cellules spéciales d'enquête sur les gilets jaunes. Leur rôle, interpeller les auteurs de violences grâce notamment aux images de vidéosurveillance ou aux images filmées par les policiers eux-mêmes. C'est ce qui s'est passé pour Tony, 29 ans, qui avait montré son postérieur aux forces de l'ordre le 9 février dernier. Bon, si ce n'était que ça, mais il a accompagné son geste d'une pluie de pavés et de gestes obscènes. Eh bien, Tony a été interpellé grâce à une enquête d'une cellule spéciale et condamné à 3 mois de prison ferme. Au total, selon le Parisien, il n'existe pas moins de 14 de ces cellules dans toute la France.
Ouais, montrer ses fesses, c'est une chose. Jeter des pavés, c'en est une autre, visiblement. La bataille pour la mairie de Paris sans fesses ni pavés, elle a bien, bel et bien commencé dans les rangs de La République en marche.
Et voilà de quoi nourrir les éditorialistes politiques de tous bords pour les prochains mois. Municipal 2020, Édouard Philippe dit non à Paris et à Macron, c'est-à-dire dans l'opinion. Selon le quotidien, le Premier ministre aurait une nouvelle fois refusé de conduire les listes de La République en marche dans la capitale. L'opinion note que ce refus catégorique n'arrange pas les affaires de Macron. La candidature d'Édouard Philippe à Paris aurait pourtant permis d'écraser le match, peut-on lire. En attendant, la guerre est déclarée. Mounir Majoubi a officialisé cette semaine sa candidature et s'est fait recadrer dans la foulée par l'exécutif. Prochain dans les starting blocks, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Selon le Figaro, qui cite l'un de ses amis, il pourrait, ceux qui pourraient quitter prochainement le gouvernement pour se consacrer à Paris sont également sur les rangs les députés Cédric Villani et Hugues Grand. rançon. La décision finale devrait intervenir en avril, après les élections européennes, mais le sujet devrait probablement venir court-circuiter la campagne.
Enfin, un tout autre sujet, les médicaments à base d'opioïdes sont pointés du doigt.
Ils peuvent traiter les douleurs chroniques, leurs noms, tramadol, codéine, lamaline ou encore morphine, oxycodone ou fentanyl. Alerte sur les opioïdes, titre les dernières nouvelles d'Alsace. On y apprend que les hospitalisations liées à un mauvais usage de médicaments dérivés de l'opium sont en forte hausse. Des médicaments qui peuvent provoquer des dépendances et dans des cas les plus extrêmes des overdoses. Le quotidien Le Progrès s'intéresse lui aussi au danger de ces pilules et évoque dans son édition du jour des chiffres inquiétants. Selon l'Agence nationale de sécurité du médicament, chaque semaine en France, au moins 4 personnes meurent d'une overdose aux opioïdes. Les hospitalisations ont explosé, plus 167% entre 2000 et 2017. Sur la même période, Nathanaël, la prescription d'opioïdes a elle augmenté de 150%. Le Progrès qui donne notamment la parole au psychiatre et addictologue Mario Blaise. Il rappelle qu'il n'existe pas de profil type de l'accro aux médicaments et que trop souvent d'ailleurs les gens sous-estiment le danger de ces traitements. On est encore loin de la crise des opioïdes qui a fait plus de 70 000 morts en 2017 aux États-Unis, mais la vigilance est de mise.
Merci beaucoup, c'était Jeanne Bartoli pour la revue de presse.